13h passé de 1 minute sur Radio Plus et nous sommes de retour depuis ce 6e Salon des Langues Habitudes. Alors actuellement, il y a le tour du salon qui est effectué donc par les élus qui sont donc accompagnés notamment d'un membre du Rotary Club de Béthune, hein, le Rotary Club international qui justement organise également avec la Maison de l'Europe en Artois de Béthune et bien ce Salon des Langues. Donc le tour est effectué. Actuellement, on va nous reprendre le cours de nos interviews d'ici quelques minutes. Bien sûr, on va vous faire vivre ce salon avec évidemment toutes les associations, les structures présentes. Et il y en a beaucoup, hein, donc des associations qui promeuvent justement certaines langues, des organismes de séjour linguistique, des écoles, des collèges, des lycées, des universités. Un voyage a déjà été remporté à 12h30 tout à l'heure, il y a eu un tirage au sort et puis il y aura un dernier tirage au sort, sachez-le, hein, pour le voyage. Si vous venez justement dans ce salon, hein, vous pouvez participer à la tombola pour tenter de remporter le dernier voyage à gagner. Voilà. Et puis je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de conférences au programme de ce salon. Il y a notamment une conférence sur les jeunes qui reviennent de séjour à l'étranger, les pièges à éviter lorsqu'on veut justement participer à un séjour à l'étranger. Également une conférence sur le service volontaire européen et puis sur la pratique de deux langues en Afrique subsaharienne. Voilà, donc ce sont les conférences qui vous attendent cet après-midi. Bien sûr, tout cela est gratuit, hein, l'entrée est gratuite. C'est ouvert au public jusque 17h et puis évidemment, nous on aura l'occasion de vous faire vivre le salon tout au long de cet après-midi. On va repartir tout de suite en musique avec Indochine et Song for Dreams sur Radio Plus. Très bon après-midi à l'écoute du 104.3 et en DAB+ également.
Tombe. You've been fed truth. Who's making your decisions? You or your religion? Your government, your country?
L'instant sur Radio Plus, Dépêche Mode avec Where's the Revolution. Et puis justement, c'était Indochine, qui justement sera en concert dans la région les 22 juin et 23 juin prochains. Pour le 22 juin, c'est complet, hein, ça a été complet en quelques heures. Et puis figurez-vous que le groupe a décidé de donner un deuxième concert, hein, le lendemain de sa prestation, donc le dimanche 23 juin. Donc une date supplémentaire, hein, pour Indochine. Et ce sera en principe le dernier concert de la tournée 13 tours, à moins qu'il y ait une nouvelle date entre deux. Mais en tous les cas, voilà, dépêchez-vous, hein, si vous voulez voir Indochine en concert dans la région. Ce sera la dernière chance, ce sera le 23 juin, donc à Lille, à Villeneuve-d'Ascq plutôt, au stade Pierre-Mauroy, bien évidemment. Voilà, il est 13h passé de 12 minutes sur Radio Plus. Alors nous sommes toujours en direct depuis ce 6e salon des langues de Béthune, avec toujours donc les élus, hein, de la ville notamment et de la région qui font le tour du salon et des différents stands. Nous, eh bien, pendant ce temps-là, nous allons pouvoir repartir en musique avant de trouver, eh bien, quelques personnes, quelques stands à interviewer en direct sur Radio Plus. On est ensemble, je vous rappelle, jusque 17h. Voici Étienne Daou avec Épaule Tatou.
Thank you. J'écoute la pluie en vacances d'Allemagne, où j'entends le rock en silence d'Allemagne, où j'ai des souvenirs d'en face, où j'ai des souvenirs d'enfance, Lénine Platz et Anatole France d'Allemagne. L'histoire passée est une injure d'Allemagne, l'avenir est une aventure d'Allemagne. Je connais les sens interdits, je sais où dorment les fusils, je sais où s'arrête l'indulgence. Ah, Fiedersee, Lili Marlène, reparlez-moi. J'ai des histoires d'amour sincères, je plane sur des musiques d'Apollinaire d'Allemagne. Le romantisme est plus violent, les violons jouent toujours plus lent, des valses viennoises ordinaires. Oh, Wiedersehen, Lili Marlène, reparlez-moi. Frontière vous Ich habe eine kleine Wildblume, eine Flamme, die zwischen den Wolken blüht. D'Allemagne, j'ai une petite fleur dans le cœur, qui est comme l'idée du bonheur, qui va grandir comme un arbre. Auf Wiedersehen, liebe Marlène, reparlez-moi. Yeah.
Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois.
Radio Plus.
Et nous sommes toujours en direct de ce 6e Salon des Langues de Béthune. À présent, je suis en compagnie d'Ivy Melchior. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Ivy, vous venez d'Allemagne.
Oui, c'est vrai.
Et vous êtes donc service civique ici en France, donc au sein de l'ESN, hein, c'est ça ?
Oui, donc je suis là pour la section locale de Lille pour l'instant depuis mi-septembre jusqu'à mi-juin.
D'accord, donc situé à Lille. Alors quelles sont vos missions au sein de l'ESN ?
Donc comme association d'étudiants, déjà nous sommes assez grandes en Europe. En total, il y a 520 sections locales dans environ 40 pays de l'Europe. Et il y a toujours deux grands axes. Donc, d'un côté, c'est l'accueil des étudiants internationaux ou des stagiaires qui arrivent dans le pays. De l'autre côté, c'est la promotion de la mobilité internationale, telle qu'aujourd'hui, donc, par exemple, faire des salons, va aller dans des écoles pour parler des dispositifs pour partir et vivre une expérience de mobilité internationale.
Alors vous, la mobilité internationale, vous l'avez déjà un petit peu vécu, vous avez fait Erasmus, vous m'avez dit auparavant. Hein, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment ça s'est passé ?
Oui, donc j'ai fait une licence en Allemagne pour l'enseignement de l'anglais et du français. Donc là-dedans, c'était obligatoire de faire une expérience de mobilité à l'international, donc soit dans un pays francophone ou anglophone. J'ai finalement choisi Lille comme destination, donc je suis venue pour un semestre dans le cadre de mes études de licence en France. Ça m'a marqué, ça m'a beaucoup plu et comme ça je suis restée attachée à la France et surtout à Lille.
D'accord.
Donc à la région ici.
Très bien. Pourquoi vous aviez choisi la France au départ ?
Donc je me suis dit, le français c'est quand même la langue plus dure par rapport à l'anglais. Du coup, l'anglais se pratique un peu plus facilement et on en trouve déjà plus dans la langue quotidienne en Allemagne. Du coup, je voulais plutôt un pays francophone. J'avais pensé au Canada aussi, mais là, il y avait juste un nombre de places plus limité. Du coup, finalement, Lille est devenue ma destination.
Alors du coup, en France, vous vous sentez bien. Il y a des choses que vous appréciez particulièrement ici en France et dans le Nord notamment ?
Je trouve qu'en soi, la France est un peu plus détendue que l'Allemagne. On n'est pas toujours aussi strict. Et après, la culture, la nourriture, tout ça, c'est bien. Dans le Nord, il manque parfois un peu de soleil, mais c'est compensé par le soleil que les gens ont eux-mêmes. Et après, tout ce qui est culturel, je trouve que c'est vraiment divers ici. Et du coup, j'aime bien la région.
Alors, le fait justement d'être aujourd'hui service civique ici, qu'est-ce que ça vous apporte sur le plan personnel et aussi sur le plan professionnel ? Parce que j'imagine aussi que derrière, vous avez aussi certaines visées professionnelles.
Donc, d'un côté, on dit souvent que les gens bilingues ou les gens qui pratiquent plusieurs langues, ça change un peu la personnalité ou le caractère. Du coup, on peut vivre deux vies ou plusieurs vies si on parle plusieurs langues. C'est un peu vrai, je trouve. Donc, quand je parle français ou quand je suis en France, je suis peut-être un peu différente par rapport à l'Allemagne, mais c'est positif. Et après, pour ce qui est professionnel, je pense que c'était bien de ressortir un peu du cadre des études parce que la licence, tout ce qu'on fait, le master, tout ça, ça peut être assez encadré encore. Et comme ça, je suis un peu plus libre à m'organiser moi-même et à vivre comme ça plus d'expérience personnelle, professionnelle qu'en restant à l'université. Donc, c'est bien pour avoir des contacts, pour s'organiser, pour tisser des liens ou justement pour s'expérimenter dans ce qu'on fait dans le domaine professionnel.
Comment vous conseilleriez les jeunes qui souhaitent justement effectuer, par exemple comme vous, un service civique en Europe, un service volontaire européen ou un séjour linguistique ? Est-ce que déjà vous leur conseillerez de faire un tel séjour ?
Oui, donc je trouve que ça ouvre vraiment l'esprit et aussi les idées qu'on a dans la tête pour ce qu'on veut être, ce qu'on veut devenir. Donc il y avait une femme tout à l'heure qui m'a parlé parce qu'on a une carte postale ici qui dit « Into the world, à la découverte du monde et de toi ». Donc c'est vrai, on se découvre aussi différemment soi-même si on part. Et après, c'est les expériences enrichissantes, c'est... chacun soi-même qui doit avoir, si c'est plutôt un séjour linguistique qui convient, un stage dans le cadre des études, juste des séjours plus courts pour un chantier international ou un séjour du volontariat. Mais là, on peut renseigner par rapport aux dispositifs qui existent et après aussi donner d'autres contacts si c'est nécessaire et si on a déjà un peu une idée en tête de ce qu'on voudrait faire.
Et alors, on vous pose, j'imagine, énormément de questions depuis ce matin. Comment ça se passe?
Oui, donc heureusement qu'on a la documentation pour répondre à quelques questions. Et donc oui, il y a des gens intéressés pour partir ou pour leurs proches qui disent « Ah oui, mes enfants, mes petits-enfants, il faut qu'on en parle plus parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore tellement le courage de vouloir partir. » Mais en fait, il faut prendre le courage, il faut s'encourager ou se laisser encourager pour partir après. Parce que normalement, c'est une expérience inoubliable et qu'on a envie de même refaire après. Comme moi qui est revenue en France parce que ça m'a beaucoup plu et marqué l'expérience que j'avais vécue avec le semestre Erasmus.
Et alors, aujourd'hui, vous avez aussi double casquette. Hein. Vous parlez aussi de la région, de dispositifs régionaux, hein, c'est ça?
Oui, donc là, pour l'instant, je suis aussi là pour la région Hauts-de-France. Donc là, il y a beaucoup d'aides qui peuvent aider les jeunes. Donc, soit pour partir aussi, il y a la bourse Mermoz qui est là pour la mobilité. Il y a des aides pour, si on veut un petit boulot à côté des contrats étudiants, il y a des aides pour la méthodologie et la pédagogie, ou si on est en formation sanitaire sociale. Donc, la région est là pour vous aider, donc n'hésitez pas.
Alors, Ivy, pour terminer, vous avez dit tout à l'heure que quand on fait un séjour linguistique, un séjour à l'étranger, il y a quelque chose qui change en nous. Qu'est-ce qui a changé chez vous?
Je ne sais pas trop, mais c'est plutôt un ressenti que quelque chose que je peux facilement définir. Mais je me sens à l'aise ici, je me suis sentie bien et du coup, c'était juste positif. Et ce n'est pas tellement facile à le mettre en mots, mais c'est un ressenti.
En tous les cas, vous en sortez très bien. Merci beaucoup, Ivy. Donc, je rappelle que vous êtes service civique actuellement au sein de l'association ESN qui s'occupe justement du réseau d'étudiants Erasmus. Hein. Merci à vous.
Merci. Bonne journée.
Et puis, bon salon des langues également. Voilà. Il est 13h passé de 29 minutes sur Radio Plus. Nous sommes toujours ensemble, bien sûr, pour vous faire découvrir ce salon des langues, ce sixième salon des langues. Je pense que les élus, oui, sont toujours là, en train de faire effectivement le tour des stands. Donc voilà, nous, on va continuer, bien sûr, nos interviews jusqu'aux 17h, bien sûr, jusqu'à la fin de cette émission. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à venir également, hein, nous faire un petit coucou à ce salon des langues. Je vous rappelle que c'est à Béthune, à la salle Bernard Georges, et que ça se situe au 138 rue Paul Doumer à Béthune, et que l'entrée est gratuite. N'hésitez donc pas à venir nous faire un petit coucou. Adèle avec Rolling in the Deep.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us.
la difficulté en néerlandais, c'est la prononciation. Van zelfspreken, ça veut dire évidemment, bon, il faut savoir le dire.
Van
zelfspreken.
Un jeune qui veut partir en Russie, il va apprendre le russe et dans les réunions, on va parler anglais. Donc il va aussi se perfectionner en anglais.
La Maison de l'Europe dispense 11 langues différentes.
Vous avez envie d'apprendre une langue ou de vous perfectionner, ou alors vos enfants souhaitent partir apprendre une langue à l'étranger, alors ne manquez pas la 6e édition du Salon des langues à Béthune, à la salle Bernard-Georges, 138 rue Paul Doumer, organisée par la Maison de l'Europe en Artois, l'ESSEB, le Rotary Club et la Ville de Béthune, le samedi 2 février de 10h à 17h. Un événement à vivre en direct sur Radio Plus.
My tailor is rich. My tailor is rich. Very cool.
Et nous sommes de retour sur Radio Plus en direct depuis ce 6e Salon des langues qui se déroule à Béthune, à la salle Bernard-Georges. Et puis j'ai plaisir à présent de recevoir Michel Feguin. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes responsable pédagogique concernant la licence langue étrangère appliquée donc à l'Université catholique de Lille. Vous êtes également écrivain, poète, je crois savoir.
Oui.
Et donc vous avez justement créé une maison d'édition qui s'appelle Midam. On en parlera juste après. Et vous animez également cet après-midi la conférence donc à partir de 16h concernant
le bilinguisme
en Afrique subsaharienne. Et on en reparle donc tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter en quelques mots l'Université catholique de Lille, même si elle est évidemment très connue, mais surtout ce qui concerne les langues étrangères pratiquées au sein de cette université, qu'est-ce qu'il est possible d'y faire là-bas ?
Alors, c'est une vieille université, je dirais. Elle est majestueuse. On la trouve au boulevard Vauban, au numéro 60. Et alors, il y a plusieurs facultés. Il y a 5 facultés. Il y a environ 25 000 étudiants, simplement, dans l'Institut catholique de Lille et toutes les écoles qu'elle regroupe. Alors, je suis au sein de la faculté des lettres et sciences humaines. Et en tant que responsable LEA, j'encadre effectivement les étudiants qui étudient les langues étrangères appliquées, et donc c'est une formation qui priorise beaucoup l'apprentissage et la maîtrise des langues. Disons que nous accueillons des étudiants qui voudraient plus tard travailler dans la communication, le marketing, la négociation, le tourisme, et c'est une formation donc qui se fait en 3 ans, la licence, et il y a beaucoup de matières, notamment l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, et des langues, des troisièmes langues telles que le chinois, le russe, le portugais, le néerlandais, qui est plutôt, on en parlera peut-être avec le clarif, etc. Donc en termes de langue, l'Université catholique peut satisfaire plus de demandes qu'on y croit, et donner aussi lieu à des vocations.
Alors justement, comment vous conseillez les étudiants par rapport au choix des langues ? Et j'imagine que c'est aussi en lien avec leurs perspectives professionnelles, leurs ambitions professionnelles.
Tout à fait. Disons que de toute façon, alors par exemple aujourd'hui, on est ici aujourd'hui au Salon des langues à l'Université catholique de Lille. Ils sont à portes ouvertes. Et donc les étudiants depuis la classe de seconde, première, terminale viennent régulièrement nous voir et nous disent ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Et c'est en fonction qu'on les oriente. Et on met aussi à leur disposition des certifications pour pouvoir avoir le niveau d'intégrer certaines formations afin d'être professionnel dans le domaine où ils veulent se spécialiser. Et donc, quand ils arrivent, on essaye de faire des tests pour déterminer leur niveau en anglais, surtout, parce que la plupart, bon, ce sont des francophones, mais on a des étudiants qui viennent de Chine, de Singapour, de Taïwan, etc. Donc, il y a des niveaux de langue qui sont faits pour savoir effectivement dans quel niveau on peut les accepter. Ensuite, pour ceux qui veulent travailler en tant que traducteur et interprète, les cours s'y prêtent. Donc, vous avez des cours d'interprétariat, des cours de version, des cours de thème, des cours de grammaire, des cours de linguistique, les cours de phonétique. Enfin, ils sont servis pour ce qui est des langues. Et puis, donc, en fonction de ce qu'on veut faire des langues, bon, on forme ceux qui veulent devenir des enseignants, ceux qui veulent faire de l'interprétariat ou bien de la traduction, ceux qui veulent travailler dans le domaine du journalisme. On a ouvert aussi un Media Lab et donc nous formons des gens qui, après avoir fait ces études de langue là, peuvent intégrer le master journalisme. Donc il y a vraiment un panel assez large, c'est à l'étudiant de dire ce qu'il a envie de faire et nous nous adaptons très souvent aussi l'offre en formation en fonction des demandes.
Alors c'est un sujet qui vient de me traverser l'esprit, mais on parle beaucoup de l'anglais. Est-ce que le Brexit, ça c'est quelque chose qui vous inquiète ?
Oh, ce n'est pas vraiment un objet d'inquiétude pour nous parce que si vous voulez, on a fait plusieurs conférences là-dessus, mais on reste. C'est comme si on n'habitait pas encore cette réalité-là. C'est comme si on avait du mal à penser que la Grande-Bretagne que finalement puisse sortir de ce beau projet européen qu'est l'Union européenne. Donc, mais les étudiants. Ça ne nous pose pas de problème. D'ailleurs, on vient de signer un accord avec Liverpool, ce qui fait que les étudiants qui s'inscrivent chez nous, par exemple, en master, ils ont directement un double diplôme. Donc, vous voyez que la question du Brexit, pour nous, on n'a pas anticipé sur ce nom-là, parce que oui. Nous, on pense que c'est une parenthèse. Enfin, on est très optimiste, on pense vraiment, vraiment, je vous le dis comme on le vit à l'Université catholique de Lille. D'ailleurs, les échanges, les projets de recherche avec les universités à la fois américaines ou bien britanniques, irlandaises, n'ont pas souffert du Brexit. Comme si finalement ce projet-là n'interférait qu'au niveau politique ou alors échanges commerciaux. Mais pour ce qui est des échanges linguistiques, etc., non, on n'en souffre vraiment pas.
Donc tant mieux pour les étudiants.
Tout à fait.
C'est déjà ça. Et alors, donc, j'imagine qu'il y a aussi des langues qui sont... Alors moi, je me souviens d'un étudiant qu'on avait interviewé, il me semble, l'an dernier, ici même, dans ce salon des langues. Par exemple, le néerlandais, c'est une langue très importante en termes de négociations commerciales. On s'en rend pas forcément compte par ici, mais voilà.
Oui, c'est vrai que le néerlandais... Alors, j'ai pas eu une très bonne expérience avec les enseignements du néerlandais. Dans la mesure où, quand j'intègre l'Université catholique en 2010, il y avait plus ou moins 3 ou 4 étudiants qui choisissaient le néerlandais en troisième langue. Mmh. Et au fur et à mesure, le nombre est allé décroissant, ce qui fait que dans l'offre de formation, par exemple, de la licence LEA, en troisième langue, je ne propose pas le néerlandais. Mmh. Cependant, à l'Université catholique de Lille, pour ceux qui sont intéressés et ceux qui en font la demande, ils peuvent le faire au Clarif.
D'accord. Donc le Clarif qui est
l'autre support qui propose les enseignements qu'on ne peut pas prendre en charge dans le cadre de la maquette pédagogique. Donc le néerlandais, effectivement, a sa place et est pratiqué. Il y a des enseignants qui le font.
Alors, soyons concrets, les langues qui progressent. Bon, évidemment, l'anglais, forcément, on sait que c'est toujours la langue la plus demandée, mais les autres langues. Je pense, par exemple, au chinois.
Oui, le chinois est en nette progression, mais le russe n'est pas en reste, parce que les demandes en langue russe talonnent de près la langue chinoise. Alors, l'intérêt que les étudiants ont à faire le chinois, c'est effectivement ce mouvement, cette poussée de l'économie, je ne vais pas dire expansionniste, mais bon, voilà, on sait que l'économie chinoise aujourd'hui se porte bien, et avec cette curiosité leur lettre, leur calligraphie, ça pousse beaucoup à beaucoup de curiosité. Donc les étudiants, comme ils ont la possibilité aussi d'aller là-bas en échange, ils se disent, mais pour y aller, il faudrait peut-être que j'apprenne cette langue-là. Donc ils le font. Donc vous avez en tête des demandes, vous avez effectivement le chinois, le russe, l'arabe, l'arabe et l'italien. L'italien, il y a beaucoup d'étudiants qui demandent l'italien.
D'accord. Et donc, le panel des langues qui sont proposées, donc il y a toutes ces langues-là dont vous venez de parler. Il y a encore d'autres langues européennes, par exemple, l'allemand
Oui, bien évidemment. Vous savez, en LEA, c'est fléché sur la maîtrise de 3 langues principales. C'est-à-dire que vous allez, bien évidemment, avoir le français, et puis l'anglais. Et ensuite, vous avez l'allemand. Ou bien l'espagnol, ce qui fait que tous nos étudiants, ils ont en moyenne 50% de leurs enseignements qui se fait dans les langues étrangères, donc en langue européenne notamment. Et puis dans ce parcours là à la fois, ils vont avoir des matières de civilisation, des matières de linguistique, comme je vous ai dit, des matières en termes de traduction. Et ils sortent de là avec un très, très bon niveau, parce que de toute façon, avec les certifications, on essaie un peu de faire le même avec le français aujourd'hui, avec la certification Voltaire. Je crois que vous en avez entendu parler, parce qu'on s'est rendu compte que, à force de faire la promotion, qui est une bonne chose, hein, je ne critique pas, des langues étrangères, on s'est rendu compte que les étudiants français avaient beaucoup de difficultés en orthographe et qu'il y avait une sorte de laissement de la maîtrise du français. Et donc on fait aujourd'hui un peu comme l'Institut Goethe délivre le diplôme, l'Institut Cervantes délivre le diplôme, on fait maintenant aussi la certification Voltaire pour garantir un minimum de maîtrise du français. Donc si vous voulez, les formations en langue essayent vraiment de garder l'équilibre, de former des linguistes ou alors des professionnels, mais avec une bonne maîtrise aussi bien à l'oral qu'à l'écrit.
Michel Feugin, restez avec nous. On se retrouve d'ici quelques instants. Voilà, toujours en direct sur Radio Plus depuis Béthune, depuis le 6e salon des langues à la salle Bernard Georges. Et nous sommes toujours en compagnie donc de Michel Feugin, qui est donc responsable pédagogique de la licence langues étrangères appliquées, licence LEA, également enseignant-chercheur en civilisation espagnole contemporaine. Alors, Michel Feugin, vous allez également tout à l'heure animer une conférence sur le bilinguisme en Afrique subsaharienne. De quoi allez-vous justement parler plus précisément ?
Disons que j'aimerais intéresser l'auditoire sur le fait que actuellement on met beaucoup d'argent, on met beaucoup d'investissement dans la formation du plurilinguisme, du bilinguisme, etc., donc l'apprentissage des langues, et que notamment en Afrique, les pays qui ont connu la colonisation, donc qui ont un héritage, hein, même si ce pan de l'histoire reste un peu douloureux pour ce peuple, il n'en demeure pas moins qu'ils héritent quand même des langues qui aujourd'hui, sur le plan international, peuvent également faire leur force. Mmh. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui dans le monde, bon, je ne vais pas vous faire la conférence ici, mais disons que je veux donner quand même à voir que la plupart des pays africains, selon qu'on se trouve dans des colonies qui ont été... anciennes colonies portugaises ou bien espagnoles ou bien françaises ou allemandes, ben ces peuples-là, ces personnes-là naissent presque avec la maîtrise des langues héritées de la colonisation. Mmh. Et que finalement, il y a, je ne sais pas si c'est assez pris en compte, quand on voit un Africain par exemple en Europe aujourd'hui, on se dit ben c'est un Africain. Mais c'est aussi un Africain qui porte un héritage, si vous voulez, de l'histoire de l'Europe, parce que l'Europe est passée par là et il maîtrise les langues européennes aussi bien que les Européens qui ne connaissent presque rien des langues africaines, voyez-vous. Donc, est-ce qu'on le met suffisamment en exergue? Et puis, j'ai fait quand même quelques petites recherches pour essayer de proposer comment on pourrait intéresser les Africains à mieux se vendre par rapport à leur maîtrise des langues. Parce que je crois que la linguistique, la maîtrise des langues n'est pas assez présentée comme étant un outil ayant une force comme pourrait l'être la politique ou bien l'économie, par exemple.
Oui. Vous pensez que certaines personnes sont encore trop ethnocentriques ?
Oh, je dirais que le monde, il est fait comme ça. Le monde, il est fait comme ça. C'est-à-dire que actuellement, nous parlons en français. Oui. Donc, si actuellement vous connaissiez, par exemple, ma langue maternelle, comme j'aime à le dire, si on se mettait à parler, l'auditoire ne nous écouterait pas. Il nous écouterait, mais il ne comprendrait pas. Oui. Donc, je pense que si on ne fait pas la place à ces langues-là, ce n'est pas simplement une sorte d'ethnocentrisme, etc., mais c'est simplement une sorte de mépris qu'on fait à un pan de l'histoire universelle. Parce que vous dites-vous bien que une langue qu'on parle au Népal et qui n'est pas connue en France, c'est une langue humaine qui va se perdre. C'est pas la langue des Népalais, c'est pas le français, c'est pas la langue des Français. Donc si aujourd'hui le français se perd, ça ne se perd pas simplement pour la France, ni simplement pour la francophonie, ça va se perdre pour tout le monde. Alors que fait-on de ces langues qu'on ne connaît pas? Vous voyez?
Oui.
Donc il faudrait faire la place aux autres langues parce qu'on est riche de notre diversité et je pense que nous vivons à côté de notre diversité. On ne la fréquente pas, on ne la découvre pas.
Et en tous les cas, ce que vous dites, c'est forcément, on a encore cet a priori sur les personnes africaines qui viennent et on les considère comme africains et puis pas forcément, même eux ne se sentent plus forcément complètement africain.
Bien évidemment.
Voilà, c'est ça, hein.
Alors, ça pourrait faire partie des petites anecdotes comme ça à trouver. Moi, quand je commence à rédiger des courriers à mes collègues, aux universités partenaires, etc., le retour que j'ai, c'est mais comment vous parlez? On ne parle plus comme ça, le français, vous savez, il faut... Voilà. Mais pourquoi? Mais parce que dans les pays africains, notamment les anciennes colonies françaises, on apprend du Racine, du Corneille, et c'est comme ça que nous avons appris. Du Britannicus, c'est là que nous avons appris.
Et ça n'a pas évolué.
Et ça n'a pas changé. Ce sont des autres programmes.
Ah oui.
Ce qui fait que, et mon épouse, par exemple, qui est d'origine camerounaise aussi, elle a le même problème. On lui dit, mais Aurélie, est-ce que tu peux faire simple? Vous voyez? Donc, il y a une sorte de maîtrise du français hors de la France, hors des frontières de l'Hexagone et d'outre-mer, que finalement on devrait aussi gagner à dire aux Français de l'Hexagone pour qu'ils comprennent que le français n'est pas qu'une pratique franco-française, mais c'est une langue qui est pratiquée dans le monde et que les gens parlent cette langue avec une maîtrise qui donne envie à beaucoup de personnes.
Voilà, donc conférence à suivre tout à l'heure à partir de 16h qui, je m'en doute fortement, va chasser pas mal d'idées reçues finalement. Hein. Voilà, en tous les cas, on l'espère. Et puis, vous avez une autre casquette encore, hein, Michel Feuguin, puisque vous êtes écrivain, poète. Vous avez notamment sorti des rêves et des lignes aux éditions... L'Armatan, c'est ça, hein, oui, tout à fait.
Oui, donc disons que, vous savez, bon, une fois que on... C'est la société qui conditionne un peu qu'on écrive hein, et qu'on pense. Hein. Parce que je réfléchis parfois et je me dis, ce n'est pas tout à fait un hasard si les grands penseurs des Lumières sont français. Il y a quelque chose qui se passe dans ce pays qui fait que vous êtes obligé de penser. Absolument. Et donc, quand vous êtes dans cette disposition-là, vous ne pouvez que partager votre pensée. Et donc, l'un des moyens de le faire, c'est l'écriture. Et donc, moi, j'écris en français, en espagnol, parce que je n'écris jamais les mêmes textes, voyez-vous. Hein. Vous êtes capable d'identifier ce que j'écris. Vous êtes capable de reconnaître ma poésie, ma verve, que j'écrive en espagnol ou en français. En revanche, quand j'essaye d'écrire dans ma langue africaine, je n'écris jamais les mêmes textes. Ce n'est jamais les mêmes propos. Vous voyez, comme si finalement la langue portait une réalité qui lui était propre. Bien, et donc j'écris, je fais de la poésie, et dans les rêves des lignes, par exemple, vous allez voir, ce sont des textes très hétéroclites. Hein. Ça va parler de la France, ça va parler du Mexique, du Brésil, du Liban. Enfin, comme je vous disais, je pense, et la pensée, vous savez, elle n'a pas de frontières. En ce sens que je me sens concerné par ce qui se passe dans le monde et puis j'essaie un peu de mettre ça en écriture et puis ça, c'est des publications qui intéressent pas mal de monde. Donc je partage cela.
Alors très vite, Michel Feuguin, donc vous avez également créé votre propre maison d'édition, les éditions donc Binam. Pour quelle raison?
Alors les éditions Binam viennent d'un besoin très très profond. Parce que, voyez-vous, je pars toujours du... Regardez, je pars de ceci. Dans le dictionnaire Larousse, les premiers mots que vous lisez, c'est « je sème à tout vent ». Il faudrait quand même qu'à un moment donné, la France se pose la question de sa position dans le monde. C'est un pays qui a donné à rêver à beaucoup de gens. Et aujourd'hui, je note une sorte de de repli sur soi, comme si ce qui se passait dans le monde ne nous intéressait pas. Alors moi je dis, bon, je suis en France, j'ai cette possibilité là, est-ce que je peux permettre à ceux qui n'ont pas accès aux maisons traditionnelles de publication, etc., de pouvoir se faire entendre? Comme je vous ai dit, je suis dans une perspective de récupérer l'autre pan de l'histoire de l'humanité, et quoi de plus noble et de plus comment enrichissant que de permettre aux gens de trouver un écho à travers les éditions Binam.
Eh bien voilà, en tous les cas, on en aura au moins dit quelques mots des éditions Binam. Merci beaucoup Michel Feguin d'avoir répondu à nos questions. Et puis je rappelle que vous serez en conférence donc tout à l'heure au sein de ce Salon des Langues pour parler donc du bilinguisme en Afrique subsaharienne. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, donc on se retrouve eh bien juste après la page publicitaire sur Radio Plus. À tout de suite.